Combien consomme réellement ma voiture ? Denis Robert, les chiffres officiels de consommation des voitures indiqués dans les prospectus n'ont souvent qu'un lointain rapport avec la réalité. Pour quelles raisons ?
Bien, une partie au moins de la réponse réside dans les plafonds de CO2, hein, qui ont été définis en accord avec la directive européenne. Alors en Suisse, ces plafonds sont fixés à 130 grammes par kilomètre en moyenne depuis 2012. Et puis ils devront être abaissés à 95 grammes d'ici à 2020. Alors les importateurs qui n'atteindraient pas ces objectifs, eh bien, ils sont passibles d'amendes dont le montant augmente de façon exponentielle pour chaque gramme de dépassement.
Et comment sont effectués actuellement les tests de consommation ?
Ça, c'est le problème. Évidemment, les mesures de consommation sont faites en laboratoire, ce qui est normal, mais elles sont faites dans des conditions tellement favorables qu'on arriverait difficilement à les réunir au quotidien. La mise hors service des équipements gourmands en énergie comme la climatisation, les phares ou parfois même l'alternateur qui recharge la batterie, c'est déjà un peu plus discutable. La température idéale, bon, on sait que chez nous on ne l'a pas toujours. Et puis les accélérations tellement lentes qu'elles vous vaudraient un concert de klaxons si vous démarriez comme ça quand le feu passe au vert. Disons que ce n'est pas très, très réaliste.
Et pourquoi, Dani, est-ce que l'écart entre les tests et la réalité, il augmente chaque année ?
Parce que les moteurs de nouvelle génération sont davantage conçus en fait pour bien passer le test que pour avoir des consommations particulièrement basses.
Quelles sont les conséquences justement de cette pression qu'on exerce sur les constructeurs automobiles ?
Bien, les constructeurs, ils cherchent évidemment des solutions pour faire baisser la consommation des moteurs et notamment celles qu'on mesure lors du test. La méthode choisie par la plupart d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le downsizing, c'est-à-dire un redimensionnement à la baisse du moteur. Ça consiste à réduire la cylindrée et puis éventuellement aussi le nombre de cylindres, puis à équiper le moteur d'un turbo pour conserver le même niveau de puissance. Mais il s'avère qu'en usage réel, eh bien, ces moteurs suralimentés consomment en fait beaucoup plus et la différence est plus grande qu'avec les anciens moteurs atmosphériques. Et puis l'autre facteur qui est également lié à la contrainte des plafonds de CO2, ben, il réside dans la manière dont les constructeurs exploitent de façon plus ou moins extrême la marge de manœuvre offerte par ces directives européennes. De la même manière que les multinationales pratiquent l'optimisation fiscale, ben, les constructeurs font tout de manière légale, jusqu'à preuve du contraire, pour optimiser les consommations de leurs véhicules.
Et que va-t-il se passer à l'avenir ? Est-ce que un test plus réaliste va voir le jour ?
Alors, depuis plusieurs années maintenant, il est question d'introduire une nouvelle procédure qui est censée être plus réaliste, car le cycle NEDC, donc le cycle actuel qui existe depuis 1992, n'a jamais été représentatif, et puis aujourd'hui, il est carrément obsolète. Alors, le nouveau cycle de mesure s'appelle WLTC, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle, qu'il devrait entrer en vigueur en 2017. Hélas, certains spécialistes doutent qu'il soit beaucoup plus proche de la réalité parce qu'il semblerait que les comparaisons qui ont été faites ne mettaient pas en évidence de très grandes différences.